Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, dans le débat du Club des idées, Europe 1 se mobilise pour nos agriculteurs. Qu'est-ce qu'être paysan en 2021? Comment sortir la profession de la crise qu'elle traverse depuis plusieurs années? Comment réconcilier le monde rural et les citadins? Toute la semaine, l'antenne d'Europe 1 se met donc à l'heure du monde paysan, car ils ont besoin de nous. Quel modèle pour demain? Comment rester compétitif et sortir peut-être d'un modèle productiviste et du tout chimie? C'est aussi une question qui se pose et dont on va débattre donc jusqu'à 20h avec nos invités. Bonsoir Jérôme Regnault.
Bonsoir.
Vous êtes agriculteur à Plaisir, ça se trouve à côté de Paris, enfin pas très loin de Paris, et vous êtes l'un des créateurs du collectif Ici la Terre. Vous nous raconterez quel est le sens de ce collectif. Bonsoir Kevin Thomasson.
Bonsoir
vous
Julien.
Êtes président des jeunes agriculteurs de Bretagne, producteur de viande bovine, de légumes de plein champ et producteur d'œufs plein air dans le Morbihan. Et puis on est en ligne aussi avec plusieurs agriculteurs qui vont nous partager leurs témoignages et notamment le sens de leur engagement au service de ces métiers de la terre. Est-ce que vous diriez d'abord, Jérôme Regnault, qu'aujourd'hui les Français sont réconciliés avec leurs agriculteurs?
Réconciliés, pas nécessairement, parce qu'ils n'étaient pas fâchés avec leurs agriculteurs.
Mais il y avait fâchés un malentendu.
Ils étaient fâchés avec une forme d'agriculture. En effet, il y avait un malentendu. Je pense qu'il existe encore partiellement. Mais il y avait une méfiance, une interrogation, parfois une suspicion liée à l'agriculture. Mais quand on parlait agriculteurs, quand ils identifient les personnes, quand ils s'approprient un peu aussi nos sujets, puisqu'ils en ont tous, on en a été témoins par cette belle émission, tous la mémoire ou un attachement personnel et familial, ça ne se passe pas si mal que ça quand on converse avec eux, quand on communique avec eux. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont un vrai attachement au monde agricole et à ce qu'ils représentent.
Vous avez, vous, 300 hectares avec une ruche d'une trentaine d'abeilles. Alors, vous faites de grandes cultures, hein, je crois, du céréal, du blé, de l'orge, du colza, du maïs, du févrole, du sorgho. Voilà, il y a plein de... 300 hectares, c'est beaucoup. Hein.
Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup et c'est aussi l'équilibre nécessaire d'une exploitation de grande culture aujourd'hui, c'est-à-dire c'est beaucoup en surface, c'est beaucoup de travail, mais c'est pas si grand à l'échelle d'une exploitation moyenne européenne. Et ça, c'est aussi le modèle français.
Vous faites du Made in France, est-ce que vous exportez?
Oui, c'est-à-dire
Vous savez où?
Non, je ne sais pas. C'est-à-dire tout simplement, je travaille avec une coopérative sur un marché qui est mondial, les échanges sont mondiaux, et est-ce que mon blé se retrouve chez le boulanger du coin ou est parti à l'autre bout de la planète, je n'en sais rien du tout.
Alors ça, c'est le grand paradoxe de la mondialisation et de la fabrication et de la production de notre alimentation. On en parlera parce que c'est vraiment un point très très important. À l'heure où on est une grande nation d'exportation de l'agriculture, on est aujourd'hui à un point de bascule puisque l'an prochain, on importera plus de produits alimentaires qu'on en exporte avec, je rappelle ce chiffre constamment parce qu'il est sidérant, un fruit et légumes sur deux consommés dans notre pays est aujourd'hui importé. Ça pose la question aussi du modèle agricole français. Kevin Thomasson, président, donc je le rappelle, des jeunes agriculteurs de Bretagne, vous êtes producteur de viande bovine. Même question d'abord, est-ce que c'est la fin du grand malentendu entre les paysans, les agriculteurs, les éleveurs et les Français? Je regardais le dernier sondage qui est sorti, 72% des Français ont une très bonne opinion de nos agriculteurs. C'est bien ça?
C'est des chiffres que l'on connaît et c'est vrai, on le voit dans notre quotidien.
À l'heure où on parle tout le temps d'agribashing, où on dit qu'il y a deux Frances qui s'opposent, la France des villes, la France des urbains, la France des écolos, avec le monde agricole, ça va plutôt dans le sens de la réconciliation, ces chiffres-là.
Oui, parce que médiatiquement, c'est vrai qu'on entend moins souvent parler en bien de l'agriculture qu'en mal. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui dans notre métier, c'est qu'on fait beaucoup de choses de bien, mais sauf que ça ne fait pas vendre de papier, malheureusement.
Oui.
C'est ça qui est pénalisant pour l'agriculture aujourd'hui.
Oui. Et puis, il y a aussi la communication. C'est aussi important pour vous d'être plus peut-être transparent, de communiquer. Tout à l'heure, on sera avec un agriculteur qui a décidé de communiquer. Vous allez voir, c'est assez intéressant, sur les réseaux sociaux et qui raconte son métier à travers des vidéos et des messages. Alors vous, Kevin Thomasson, vous êtes producteur de viande bovine. Vous avez repris l'exploitation familiale, c'est ça?
Oui, alors j'ai 3 générations d'agriculteurs sur ma famille. Hein, donc mes grands-parents...
3 générations?
Oui, 3 générations. Mes grands-parents étaient agriculteurs. Mes parents étaient agriculteurs encore depuis... Ils ont arrêté à 2 ans. Ils ont arrêté il y a 2 ans en retraite. Et c'est vrai que je suis tombé dans la potion magique, on va dire ça comme ça. C'est que je participe aux tâches agricoles depuis ma plus tendre enfance avec mes sœurs. Et voilà, de fil en aiguille.
Il y a toujours du boulot à la ferme. Hein. C'est un métier qui prend... c'est 7 jours sur 7.
C'est passionnant. tout simplement.
24 heures sur 24. Vous travaillez combien d'heures par semaine, vous, par exemple ?
Oh, on prend beaucoup de plaisir. En moyenne, non,
il y a
on va dire.
Plaisir, il y a quand même le travail.
En moyenne, c'est 60, 70 heures.
70 heures.
Ça aussi, entre 50 et 100 heures, quand on est avec des points de travaux, notamment quand on est dans les moments des semis, au moment des récoltes. C'est vrai que là, il y a beaucoup plus de travail.
Combien vous avez de bêtes ?
Donc, j'ai 22 000 poules pondeuses en plein air.
22 000. Ah oui, ça demande un peu de travail, ça.
Oui, un peu de travail, mais bon, voilà, ça se fait bien. Et puis, j'ai une centaine de bovins viande.
Et vous produisez pour le marché national ou aussi pour l'export ?
En fait, sur le marché de l'œuf, c'est très clairement français, purement français. On produit 99% de nos œufs en France. Donc, c'est un marché assez sécurisé malgré tout, avec un petit pourcent d'importation pour gérer les flux. Après, sur le marché de la viande bovine, c'est pareil. Hein, c'est un marché national où, justement, ça va dans la restauration hors domicile ou la restauration traditionnelle ou alors le bien manger du week-end. Donc,
Oui, c'est de la bonne viande que vous faites.
Ah oui.
En Bretagne, ça ne peut que être de la bonne viande et on salue évidemment nos amis bretons. Jérôme Regnault, qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui d'être agriculteur ? Quel est le sens de cette mission ? Je vous pose la question parce que il y a quand même une sacrée crise des vocations aujourd'hui. Je regardais les derniers chiffres en France. La France comptait 1,6 million d'agriculteurs. Ça représentait 7% de l'emploi total de la masse salariale française. Aujourd'hui, donc 1,6 million, aujourd'hui 400 000 agriculteurs. Oui. 400 000 agriculteurs. Il y a plus de gendarmes et de policiers qu'il y a d'agriculteurs en France.
Il y a plus de personnes qui travaillent dans l'administration sur les sujets agricoles que d'agriculteurs sur le terrain. Pour vous dire, ce qui représente être agriculteur aujourd'hui, alors c'est tout pour nous, je pense. On est un petit peu,
c'est un métier de passion,
un petit peu pareil.
C'est ce qu'on dit
aussi souvent.
Souvent,
je me souviens qu'on m'a demandé que faire. J'ai dit, je souhaitais être agriculteur.
Pourquoi ?
C'est ma vie, mais ce qu'il y a de particulier avec ce métier, si vous voulez, c'est que vous n'avez pas votre vie et votre métier à côté. Quoi qu'on fasse, aujourd'hui, je viens vous voir. Aujourd'hui, j'étais sur Paris. On peut être en vacances ou quoi que ce soit. Quoi qu'on fasse, nous sommes agriculteurs. On est toujours, parce que évidemment, avec les astreintes liées au métier, un regard évidemment sur l'exploitation, mais aussi sur l'état d'esprit qu'on apporte à tout ce qui nous entoure et aussi à l'engagement. Moi, je le ressens beaucoup en étant en lieu périurbain.
Oui, alors, oui.
Un plaisir, c'est quand même plus de 32 000 habitants. On engage toute sa famille dans ce choix de vie. C'est-à-dire, évidemment, mon épouse n'est pas du milieu agricole, mes enfants, leurs amis, leurs loisirs ne sont pas agricoles. Moi-même, la plupart de mes loisirs sont assez urbains. Mais par contre, sur la saisonnalité du métier, sur l'engagement financier comme moral, comme d'humeur, il faut aussi savoir se le dire, je suis toujours agriculteur et évidemment, j'engage tout le monde avec moi dans ce choix.
Est-ce que tous les deux, vous en sortez financièrement sans révéler de secrets de revenus ? Réponse ?
Difficilement, oui.
Difficilement ?
Oui.
Et vous ?
Je suis à 5 euros de l'heure, pour faire simple.
Vous êtes à 5 euros de l'heure. C'est pour ça qu'il faut arriver à bosser 70 heures. Je vous pose la question, parce que ça aussi, c'est un sujet, on en parlera juste après la pause, mais le revenu moyen net, je voudrais que nos auditeurs et nos auditrices entendent ça. Le revenu moyen net aujourd'hui des agriculteurs dans notre pays, c'est 1076 euros par mois. C'est moins que le SMIC et c'est deux fois moins que le salaire moyen des Français. Ouais. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, pourquoi en est-on arrivé là ? Faut-il changer de modèle ? On en parle juste après la pause. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h30, passé de 1 minute, la suite du débat du Club des Idées. Europe 1 se mobilise. Donc, pour nos agriculteurs, on continue le débat sur qu'est-ce qu'être paysan en 2021, comment sortir la profession de la crise qu'elle traverse depuis plusieurs années. Et on est toujours avec nos invités ici en studio. Et puis, on va accueillir aussi des témoignages qui nous arrivent au standard Europe 1, comme Camille Borin. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir madame, vous êtes agricultrice à Amiens, auteure de Agricultrice, une vie à part, qui va paraître aux éditions Robert Laffont, qui paraît qui est paru il y a quelques jours ?
Non, il sort le 4 mars.
Le 4 mars, voilà, dans 3 jours. Eh ben, on aura quelques extraits via votre témoignage, peut-être en avant-première ce soir. Merci infiniment de votre témoignage. Quelle exploitation vous avez-vous ?
Aujourd'hui, c'est une exploitation totalement céréalière, parce que j'ai perdu mon mari il y a 3 ans maintenant, qui s'est suicidé au sein de notre exploitation en étant en polyculture élevage porc naisseur engraisseur. Et à la suite de son décès, j'ai fait le choix d'arrêter totalement l'élevage et de me consacrer 100% aux cultures.
Et pourquoi s'est-il suicidé, votre époux, madame ?
Des problèmes financiers, on avait des dettes, il y avait aussi des problèmes familiaux, la pression administrative aussi pesait beaucoup au niveau des banques et une non-compréhension face à notre situation qui a fait que je pense qu'il il n'a pas trouvé d'autre solution que de faire ce geste.
Quelle tragédie. C'est une histoire qui illustre évidemment le mal-être du monde agricole et la difficulté de s'en sortir aussi. J'évoquais juste avant la pause, je ne sais pas si vous avez entendu, que le salaire moyen aujourd'hui des agriculteurs est de 1076 euros par mois, ce qui est moins que le SMIC évidemment et deux fois moins que le salaire moyen français. Est-ce qu'aujourd'hui, madame, vous arrivez à vous en sortir, vous ?
Alors, quand mon mari était présent, on se versait 300 euros de salaire par mois pour deux, ce qui était très très compliqué.
Et donc comment on fait avec ça ?
On essaye de s'en sortir, on survit. Après, moi, j'ai fait le choix de partir travailler à l'extérieur à mi-temps pour essayer de nous apporter un salaire plus convenable. Aujourd'hui, ma vie est que je suis toujours salariée en dehors de l'exploitation. Du coup,
Vous avez double emploi ?
Oui, j'ai double emploi. Il y a quelqu'un qui gère pour moi, en fait, les terres. Donc, je fais travailler un prestataire.
Oui.
Comme ça, c'est un coût, moi aussi, au niveau du matériel. J'ai pas besoin d'investir dans du matériel. Et je vis aujourd'hui avec le salaire que je gagne en étant salarié à l'extérieur, ce qui me permet de ne pas prendre de salaire pour l'instant sur l'exploitation. Ouais.
Camille, en quelques mots, comment vous, à votre niveau, vous expliquez que vous ne parveniez pas à vous en sortir ? Vous travaillez dur, vous avez une exploitation importante et vous n'y arrivez pas, ou vous y arrivez tout juste. Comment vous expliquez ça, vous ?
Il y a les cours du marché qui sont pas toujours toujours évidents. Chez certains agriculteurs, ils ont beaucoup d'investissements à faire, des mises aux normes. Moi, aujourd'hui, c'est plus mon cas. Mais malgré que ça soit plus mon cas, je pense aux autres qui doivent faire beaucoup d'investissements. S'ils sont dans l'élevage, les mises aux normes sont assez importantes. Il y en a, ils ont des robots et ils sont endettés. Et ces gens-là, il faut vraiment les aider parce que le suicide, c'est 1 à 2 par jour.
Oui.
Donc, c'est grave
très
quand même. Enfin, moi, je suis veuve depuis que j'ai 24 ans. Et du coup, c'est très compliqué à vivre au quotidien, malgré que je sois très bien entourée. Mais il faut voir la positivité aussi, il ne faut pas toujours voir le négatif. Je pars du principe où le négatif attire le négatif. Il faut être positif, il y a des agriculteurs, ils y arrivent très bien, et heureusement pour eux. Et il faut les encourager, il faut continuer, il y a les circuits courts. L'agriculture, c'est une évolution permanente, mais justement, il faut donner les moyens aux agriculteurs de partir dans cette évolution.
Alors, merci infiniment Camille Borin pour ce témoignage. Je rappelle le titre de votre livre. Voilà, précipitez-vous dans les librairies pour l'acheter. Ça sort dans 3 jours. Ça s'appelle Agricultrice, une vie à part. Merci infiniment, madame, pour ce témoignage sur le vif et très très fort, évidemment. Peut-être une réaction à Kevin Tomaso, président des jeunes agriculteurs de Bretagne. D'abord, tout simplement, à ce témoignage, vous représentez d'une certaine manière la profession. Comment réagissez-vous quand vous entendez un témoignage comme celui-ci ?
Forcément, c'est très éprouvant et on comprend la difficulté que cette personne a vécue. C'est vrai que moi, je représente les jeunes agriculteurs, donc je suis plus dans la vision sur l'avenir, sur l'optimisme. C'est ça qu'on me demande au quotidien, c'est comme ça qu'on arrive aussi à s'aider.
Il y a quelque chose de très intéressant dans ce qui a été dit, même si les circuits courts, c'est un débouché, même si la bio, c'est un débouché. Mais il y a derrière la question du modèle. Est-ce qu'il faut changer de modèle ou ajuster le modèle agricole français tel qu'il a été bâti depuis l'après-guerre dans les années 70, où on a demandé aux agriculteurs finalement de produire vite et de produire beaucoup? C'est le modèle productiviste.
Moi, je pense que certes, ce qui a été fait par le passé n'était pas, ne correspondait pas aux règles sanitaires d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit les agriculteurs faire de plus en plus d'efforts vers l'environnement. Et ça, on en est tout à fait capable. Sauf que ça demande du temps et ça demande aussi surtout de l'argent. Faire de l'environnement, on peut le faire. Mais avec quels moyens ? Aujourd'hui, c'est ça. Concrètement, comment on y arrive ? Il faut que les agriculteurs gagnent leur vie pour investir dans l'environnement. Ouais. Pas le contraire.
Oui, vous avez raison de le souligner, car aujourd'hui, les agriculteurs gagnent trop peu. On parlait tout à l'heure de la rémunération qui est inférieure au SMIC. J'accueille François Purseigle, qui nous a rejoint, professeur de sociologie à l'École nationale supérieure agronomique à Toulouse et chercheur associé au CEVIPOF. Bienvenue à vous en studio. Votre regard d'abord sur ce modèle agricole qui, encore une fois, le témoignage en est une illustration parfaite, ne permet pas à la grande majorité des agriculteurs de vivre correctement de leur travail.
Je pense qu'il n'y a plus de modèle agricole. Je pense que c'est bien ça aussi la question qui est posée. Il ne faut pas oublier que ce que vous appelez le modèle productiviste, c'est l'histoire d'une conquête sociale. C'est-à-dire que L'histoire de l'arrivée du tracteur dans la cour de ferme, c'est l'histoire de l'émancipation
absolument.
De familles paysannes qui sont devenues en fait des familles agricoles. Et ce qui est posé comme question aujourd'hui, c'est une question relative en fait à l'organisation du travail, à l'organisation économique. Et on voit bien que sur le terrain, et le témoignage que je viens d'écouter en témoigne, on bricole avec des revenus qui se construisent à travers de la pluriactivité. On va chercher effectivement à se spécialiser parfois sur certains ateliers en déléguant tout ou partie de l'activité de l'exploitation. Pourquoi ? Parce que certains ont la capacité de recourir à du salariat, d'autres n'ont la capacité que d'externaliser tout ou partie du travail. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui.
Mais pour pointer des problématiques bien concrètes, est-ce que c'est la faute aux normes, par exemple, c'est un sujet qui revient beaucoup, et au coût du travail ? La France, je le disais en préambule de ce débat, était championne d'Europe des exportations, on a doublé nos importations. Un fruit et les légumes sur deux consommés en France est importé, un poulet sur trois consommé en France est importé, et 70% de ce qui est consommé dans nos cantines, ça vient de l'étranger. Est-ce qu'on ne marche pas sur la tête, là, quand même ?
Ce qui est sûr, c'est qu'on a un modèle, pour le coup, à la française d'exploitation, qui a du mal à répondre à cette injonction environnementale. On en demande toujours de plus en plus à des exploitations qui ont de moins en moins, au sein de l'exploitation, de la main-d'œuvre facilement accessible.
Oui, parce que le coût du travail, le coût salarial, j'ai regardé les chiffres, a bondi de 58% en 7 ans. Donc c'est presque deux fois plus, par exemple aujourd'hui, le coût salarial dans le monde agricole qu'en Allemagne. Je reprends souvent un exemple, pardon de me répéter, mais qui est l'exemple de la pomme. En France, le coût de la main-d'œuvre est 1,7 fois supérieur à celui de l'Espagne et deux fois plus qu'en Pologne. Du coup, la pomme polonaise, elle coûte 70 centimes d'euros le kilo contre 1,80 € pour la française. Comment est-ce qu'on fait, Jérôme Regnault, vous êtes agriculteur à plaisir, pour lutter contre ça ?
Mais vous avez tout dit. Le problème, il n'est pas tant sur les normes, il est sur le fait qu'on joue un jeu à plusieurs, mais avec chacun sa règle. Et comment voulez-vous, sur le modèle français, avec les charges françaises, avec les règles sanitaires et environnementales françaises, si vous ne mettez pas une barrière au moins sociale et sanitaire sur ce qui est importé. C'est-à-dire, évidemment, que les échanges doivent être internationaux. On ne va pas vivre dans notre petite bulle, certainement pas. Par contre, on doit tout jouer avec les mêmes règles. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir sous une même appellation, sous un même label, quelque chose qui rentre et qui n'a pas été du tout produit avec les mêmes règles, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient sanitaires. C'est une question de, tout simplement aussi, au-delà de la moralité, de confiance vis-à-vis des consommateurs. C'est un mensonge quotidien qu'on leur met sur les étals.
Mais vous parliez, François Pursec, de bidouillage. Chacun tente des choses, chacun dans son petit coin. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité aussi des pouvoirs publics ? Il y a un sujet qui revient beaucoup, par exemple, c'est l'utilisation de la chimie de synthèse. Évidemment, les pesticides, avec tout le débat qui se cristallise autour du glyphosate. Pourquoi ? Parce que le glyphosate est le produit actif le plus utilisé dans le monde, c'est l'herbicide le plus utilisé dans le monde, à travers son produit phare qui est le Roundup. On se souvient qu'en 2008, après le Grenelle de l'environnement, l'ambition avait été annoncée clairement de réduire de 50% en 10 ans la consommation de pesticides dans l'agriculture française. On n'y est pas arrivé. Mais la question est, a-t-on vraiment cherché ? Est-ce que les pouvoirs publics ont mis le paquet pour trouver des alternatives aux pesticides dont aujourd'hui on dit aux agriculteurs, arrêtez de les utiliser, c'est de votre faute ?
Je pense que de toute façon, les agriculteurs n'ont pas attendu les pouvoirs publics pour chercher à trouver des solutions à des questions qu'ils se posent eux-mêmes.
Oui.
J'étais encore aujourd'hui dans le département de Lyon sur
le terrain. Mais ça coûte de l'argent, c'est la
avec un agriculteur qui fait de l'agriculture de conservation et qui est face aussi à des verrous. Alors, effectivement, on a des agriculteurs avec des centres d'études et de techniques agricoles qui cherchent à innover, justement. Alors, est-ce que les pouvoirs publics n'ont pas fait le nécessaire ? Je pense que il faut aussi que la réponse des pouvoirs publics, elle soit d'une certaine manière adaptée aux situations et aux contextes locaux. Et ce n'est pas dans toutes les filières qu'on peut s'émanciper de la tutelle, malheureusement, de certaines molécules. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même aujourd'hui des agriculteurs qui font tout pour limiter de toute façon ce qui coûte énormément aussi dans une exploitation agricole. Donc il faut limiter aussi le recours aux intrants. Tout simplement parce que ça a un coût.
Ouais.
Et puis, on a quand même aussi des agriculteurs aujourd'hui qui, certes, peut-être à une époque, n'ont pas su entendre, mais qui, quand même, aujourd'hui, cherchent à écouter d'une certaine manière aussi ce que veulent les consommateurs. Et on a des consommateurs qui ne cherchent pas forcément non plus le produit qui répond à cette ambition.
Kevin Tomaso, sur ce point, et puis peut-être aussi sur la capacité à l'agriculture française, de devenir autosuffisante d'une certaine manière. C'est-à-dire que on s'en est aperçu au moment de la crise du Covid avec les confinements à répétition. D'ailleurs, le président Macron l'a décrété. Il faut qu'on arrive à être autosuffisant sur le plan alimentaire. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est souhaitable ?
Bah, évidemment, la force d'un pays, c'est l'autosuffisance alimentaire. Un pays qui est dépendant de l'extérieur sur l'alimentation, c'est un pays qui, voilà, où il y a des gros risques. Mmh. Et on l'a vu par les émeutes de la faim il y a quelques années, et il ne faut surtout pas que ça se reproduise aujourd'hui. La France a cet avantage de produire beaucoup. La France produit bien, il faut le dire. Elle est considérée l'agriculture la plus durable au monde depuis 3 ans par le magazine The Economist. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on dise aussi haut et fort. On fait des efforts sur l'environnement et on travaille en ce sens. Et aujourd'hui, très clairement, on a tout pour bien faire en France. Mais c'est le paradoxe français. Le paradoxe de plus vert, mais sauf que les gens ne veulent pas forcément payer plus cher. Et aujourd'hui, oui, on en est là.
Très important, le rôle du consommateur. Et je voudrais qu'on en dise un mot aussi, la pression des distributeurs. C'est que c'est aujourd'hui le 1er mars. C'était la date butoir pour les négociations dans le cadre de la fameuse loi Egalim entre distributeurs et producteurs. On va en dire un mot. D'abord, je voudrais qu'on accueille Étienne Fourmont qui est avec nous par téléphone. Bonsoir Étienne.
Bonsoir.
Vous êtes agriculteur, vous êtes éleveur de 85 vaches laitières dans la Sarthe et vous avez repris, comme souvent, la ferme familiale. D'abord, vous, à titre personnel, comment vous le vivez, cette vie de paysan aujourd'hui ?
Ben moi, personnellement, la vie de paysan me convient plutôt bien, puisque comme vous l'avez expliqué, je suis la 5e génération sur la ferme. On est bien installé, j'ai des conditions de travail et des conditions de vie qui sont relativement correctes, même si je fais beaucoup d'heures. Mais c'est vrai que voilà, c'est un métier passion et c'est un métier que, comme mes collègues, je pense, j'aime faire. Et qui me permettent de m'épanouir aujourd'hui dans mon travail au quotidien. Quoi.
Alors Étienne Fourmont, vous avez une particularité, c'est que vous êtes un agriculteur un peu geek, comme vous dites vous-même. D'abord, vous êtes très bien équipé, vous avez des robots de traite, mais surtout vous faites partager à votre communauté, comme on dit, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, je crois aussi, sur lequel vous avez 70 000 abonnés, vous faites partager votre travail au quotidien. Pourquoi vous pensez que c'est important la communication ?
Parce qu'il y a une chose qui était vraie il y a à peu près, on va dire encore 10-15 ans, c'était pour dans le monde agricole et même en général je pense, pour vivre heureux, vivons cachés. Ça marchait bien il y a encore 10-15 ans. Sauf qu'aujourd'hui, ça marche plus du tout. C'est-à-dire que le consommateur, s'il veut savoir comment on produit, il va sur Internet, il voit des dizaines de vidéos, de commentaires, de techniques agricoles pour savoir comment on produit. Et ce que j'ai remarqué, moi, c'est que bien souvent, ces vidéos ou ces gens qui expliquaient le métier, c'était pas toujours des agriculteurs et qu'ils le faisaient pas toujours très bien. Et c'est vrai que moi, je me suis dit, voilà, un jour, j'ai été sur Twitter, j'ai commencé à expliquer mon métier. Et puis je me suis dit, pourquoi pas lancer ma chaîne YouTube où je fais des vidéos. Voilà, tous les dimanches matin, je sors une vidéo sur ce que j'ai fait dans la semaine à la ferme. Les vaches, les tracteurs, les champs, les robots de traite, les robots repousse-ouvrage, le robot qui aspire les désections des vaches. Voilà, je montre le quotidien, ouais, la réalité d'un agriculteur laitier en France.
Alors, vous êtes sur un marché très compétitif, Étienne Fourmont, le lait dont on parle beaucoup, avec le vrai prix du lait, la problématique du prix payé aux producteurs. J'évoquais à l'instant la pression des distributeurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, vous, ça, au quotidien ?
Oui, c'est clairement quelque chose qu'on reçoit au quotidien parce que, en fait, si vous voulez, depuis 40-50 ans, les distributeurs sont énormément concentrés. Donc vous vous retrouvez il y a encore peut-être 50 ans avec des dizaines et des dizaines de distributeurs. Aujourd'hui, vous en avez 4-5 gros distributeurs, alors que vous avez encore, même si c'est très peu, 60 000 producteurs de lait à peu près en France. Et il se retrouve qu'on a une sorte de goulot d'étranglement où les distributeurs sont si peu nombreux que nous, agriculteurs, on ne peut plus négocier notre prix du litre de lait face à notre acheteur, qui est moi qui ai la laiterie Belle, ou face au distributeur ensuite. Et c'est là le problème, c'est qu'on n'a pas su s'organiser commercialement, on va dire, pour pouvoir rivaliser avec des distributeurs qui sont moins nombreux et beaucoup plus forts que nous.
Bien, merci pour votre témoignage, Étienne Fourmont. Vous restez en ligne encore quelques instants avec nous. Réaction François Pursec, professeur de sociologie à l'École nationale supérieure agronomique à Toulouse. Qu'est-ce qu'on peut répondre face à cela? On a l'impression que c'est insoluble. Le gouvernement a tenté d'améliorer les choses avec la fameuse loi Egalim pour éviter les ventes à perte, pour mieux rétribuer les distributeurs et les producteurs. On s'aperçoit que ça se passe en fait comme ça se passait il y a quelques années, avec des producteurs qui sont étranglés, qui ne s'en sortent pas, et des tarifs qui continuent de baisser. C'est intéressant ce qui a été dit tout à l'heure.
Alors, c'est
le
très
rôle
variable.
Du consommateur.
C'est très variable aussi d'une filière à l'autre. Hein. On voit bien que la filière lait ne réagit pas de la même manière que la filière viande. On voit bien que, notamment dans la filière viande, c'est très difficile aujourd'hui de sortir des volumes contractualisés. Il y a un déficit aussi peut-être d'organisation dans certaines filières. On a aussi des producteurs, et notamment en fruits et légumes, qui sont tentés de mettre sur le marché assez rapidement parce qu'on a des produits périssables. Bref, on a un rapport au marché, aux marques et aux enseignes qui sont des rapports très différents d'une filière à l'autre. Et puis, comme on le disait, il faut aussi que les consommateurs jouent le jeu à un moment donné. Hein, des consommateurs qui sont souvent amnésiques de la période modernisatrice, qui sont amnésiques aussi des conditions de travail dans lesquelles sont produits des produits vers lesquels ils se précipitent sur les étals des marchés, alors que effectivement des efforts sont faits localement. Donc il faut aussi qu'un certain nombre de consommateurs considèrent que le local vaut aussi peut-être sur certaines
marchés. Le vrai prix des choses. Il faut réapprendre aux gens le vrai prix des choses. Le coût de production d'un cochon, le coût de production
du
blé. Jérôme Regnault, agriculteur à plaisir.
Il faut surtout réaffirmer à quel point l'agriculture française est sincère. C'est-à-dire qu'en effet, si vous parlez de juste prix, on ne peut pas accepter ce regard parfois accusateur sur nos métiers. On doit à tout prix venir s'expliquer. C'est ce que fait si bien Étienne. C'est ce qu'on cherche à faire avec le numéro vert d'ici la Terre. C'est-à-dire accepter par la profession agricole qu'on doit avoir ce regard des consommateurs sur nos métiers. On représente leur santé par la nourriture qu'on produit. On représente leur environnement par le paysage qui est notre outil de production. Donc c'est légitime qu'ils aient ces questions. Mais ces questions, il est indispensable qu'ils viennent les chercher auprès des professionnels du sujet. Et les professionnels du sujet, ce sont les agriculteurs. Ils sont formés, ils sont capables, ils sont peu de professions. Moi, je suis installé depuis 20 ans. Peu de professions ont connu ces mini-révolutions techniques et technologiques comme l'agriculture. Moi-même, je suis un jeune exploitant. 20 ans de métier, c'est pas beaucoup dans notre profession. J'ai déjà changé 2-3 fois ma façon de faire. Je suis engagé en agriculture de précision. Je l'explique très bien. Vous parliez du sujet glyphosate. Tout le sujet du glyphosate a été accusateur sur les paysans français, sur quelque chose qui pouvait être éventuellement consommé par les Français, mais qui évidemment était importé, puisque aucun agriculteur en France ne traite au glyphosate sur une culture récoltée.
Oui.
Et ça, voilà, c'est le genre d'exemple. Ça fait près de 30% des appels sur le numéro vert des consommateurs qui s'interrogeaient sur leur réalité.
Mais il y a la responsabilité là aussi des pouvoirs publics, puisque on se souvient qu'Emmanuel Macron avait pris l'engagement de supprimer le glyphosate.
On n'a plus
en
le
France.
Temps ensemble du débat scientifique. Donc il faut qu'on devance sociétalement ces questions-là. Il faut qu'on se prenne nos responsabilités. Bien. C'est essentiel.
En un mot, Kevin Tomaso, parce que le temps passe, il y a un avenir pour l'agriculture française. Je voudrais qu'on termine sur une note d'espoir, évidemment.
Évidemment, il y a un avenir et je pense que quand on voit le nombre de jeunes qui sont dans les formations agricoles qui viennent dans notre métier, même les reconversions professionnelles aussi, on en voit de plus en plus, même des femmes, de plus en plus de femmes. Et c'est vrai qu'on a une montée en puissance des jeunes à aller s'investir en agriculture, même s'il y a des gros enjeux, il faut le rappeler, hein, 3 départs en retraite, 1 remplaçant, donc il y a de gros enjeux. C'est pour ça qu'il faut qu'on trouve de la rentabilité sur les exploitations et ça passe seulement par de la rémunération, mais c'est très simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quelques centimes ce que l'on demande, c'est pas payer plus cher le produit, forcément, c'est que la grande distribution accepte de prendre un peu moins de marge, tout simplement.
Bien. Merci à tous les trois. Merci à nos agriculteurs qui ont témoigné aussi au standard d'Europe 1 pour ce débat absolument passionnant. Vive l'agriculture française. On se retrouve dans quelques secondes avec les archives et ce soir, on vous racontera l'histoire secrète d'une grève de la faim qui a marqué l'histoire. À tout de suite.